D'abord, il y a question d'une zone de libre-échange pour les 21 membres de l'APEC, mais il y a eu également des négociations pour un accord de libre-échange plus restreint qui ne concerne que 9 pays, y compris les États-Unis. Peut-être le Japon. Le Japon se dit prêt à rentrer dans les négociations. Dans les deux cas, quand même, il y a un mouvement vers la création d'une zone de libre-échange, mais les contours restent vagues pour l'instant.
Quelle chance de survie peut avoir cette zone de libre-échange si elle n'intègre pas la Chine ?
Le partnership des pays du Pacifique est justement fait pour faire rentrer le Japon et éventuellement pour faire pression ensuite sur la Chine. Les États-Unis jouent une stratégie double envers la Chine. Ils s'engagent dans le commerce avec la Chine, mais en même temps, ils essayent de contenir au niveau militaire, mais aussi au niveau économique, sa montée. Et on peut imaginer qu'une zone de libre-échange sur la Chine aurait une certaine vitalité pendant une certaine période, mais dans la perspective que plus tard, il y aura une zone plus large avec tous les membres de l'APEC, y compris la Chine, bien sûr.
Mais en quelle monnaie seront faits les échanges, en dollars ou en yuan?
Le président Obama a beaucoup critiqué les Chinois, y compris lors du sommet de l'APEC, sur le monnaie. Pour le partnership, le TPP, les échanges se feront en dollars. Mais pour une zone de libre-échange plus grande avec l'ensemble des pays de l'Asie-Pacifique, la question reste à résoudre, en fait. N'oubliez pas que la Chine a déjà un accord de libre-échange avec les pays de l'ASEAN, avec les 10 pays de l'Asie du Sud-Est, et les échanges se font en yuan, en partie, avec ces pays. Donc, on va de plus en plus vers le fait que le yuan devient une monnaie internationale, et je crois que dans 10-15 ans, on va faire les échanges en yuan.
Alors, on l'a vu récemment avec l'Union européenne, les disparités trop grandes d'économies de pays dans une zone de libre-échange peuvent conduire à de grandes difficultés. Est-ce que ce n'est pas le cas aussi pour cette zone Asie-Pacifique avec des pays comme les États-Unis et le Chili ou le Pérou?
La difficulté, ça sera dans les négociations parce que les besoins, en fait, les intérêts des États-Unis ou les pays développés ne sont pas les mêmes que les pays en voie de développement. Dans les négociations pour le code de libre-échange, par exemple, les Japonais aussi souhaitent protéger les agriculteurs et en même temps, les États-Unis souhaitent ouvrir le marché japonais aux produits agricoles américains. Ces intérêts, ce n'est pas vraiment au niveau national, en fait, c'est au niveau vraiment des secteurs différents dans des pays différents. Et comme toutes les zones de libre-échange, il y aura les gagnants et les perdants après la signature d'un accord.
Est-ce que cette zone de libre-échange va vraiment pouvoir rééquilibrer l'économie mondiale?
C'est fait pour booster, en fait, ce qui est déjà le cas, c'est-à-dire que c'est l'économie de l'Asie qui est quand même le plus dynamique actuellement. Donc ça va booster cette zone. Il faut dire que la négociation de ces accords de libre-échange est un peu par défaut. Les négociations de l'OMC de Doha, on ne croit plus qu'on puisse arriver à une libéralisation multilatérale, mondiale des échanges. Donc on va de plus en plus vers la signature des accords de libre-échange. Un exemple récent, c'est la mise en place à partir du 1er juillet 2011 d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud. Et les Européens sont en train de négocier avec les Japonais aussi pour un accord de libre-échange.